VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du lundi 11 mai 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Le procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a été renvoyé au 25 mai, peu après son ouverture dans une prison de Kinshasa. Une attaque à la grenade fait au moins 2 morts au Burundi en pleine campagne pour la présidentielle. Au Mali, les députés entament une nouvelle législature ce lundi. Ils ont élu le président de l'Assemblée nationale. Coronavirus dans le monde, le déconfinement se précise dans plusieurs pays, alors que de nouveaux cas signalés à Wuhan en Chine suscitent l'inquiétude. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, le procès de Vital Kamerhe, principal allié et directeur de cabinet du chef de l'État, s'est ouvert ce lundi à Kinshasa avant d'être ajourné au 25 mai. La première audience d'environ 2 heures a été retransmise par la chaîne publique. Jacques Aristide.
Vital Kamerhe, 61 ans, a comparu avec 2 co-accusés devant un tribunal installé à l'intérieur de la prison de Makala où l'ex-président de l'Assemblée nationale est détenu depuis le 8 avril dernier. Il est accusé du détournement présumé de plus de 50 millions de dollars destinés au financement de travaux publics. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi nie ces accusations. Il comparait avec un homme d'affaires libanais, Sami Jamal, 81 ans, qui présentait des signes évidents de faiblesse et paraissait au bord de l'évanouissement sur sa chaise. Son malaise a entraîné une brève suspension de la séance. Le troisième prévenu est un autre membre du cabinet de la présidence de la République, Jeannot Mouima, conseiller en charge de l'import-export. Aucun autre média, hormis la radio-télévision nationale du Congo, n'a été admis pour couvrir le procès. Les prévenus, les juges et les avocats portaient des masques qu'ils retiraient pour prendre la parole. Le nouveau coronavirus a franchi la barre des 1000 cas en RDC pour 41 décès en date de ce lundi, avec un important foyer de contagion dans une prison militaire de la capitale.
Au moins 2 personnes ont été tuées, 8 blessées par l'explosion d'une grenade lancée dans un bar de Bujumbura. C'était hier soir. Nathalie Barche.
La grenade a explosé en début de soirée dans un bar du quartier de Kamenge, appartenant à un membre de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, qui sert de lieu de rencontre aux Imbonerakure. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été identifiés selon un responsable local. Cette attaque intervient à une 10 jours des élections générales prévues le 20 mai, dans un contexte de montée des tensions entre le CNDD-FDD au pouvoir et le CNL, le Congrès national pour la liberté, de l'opposant Agathon Rwasa. L'élection présidentielle opposera notamment Agathon Rwasa à Évariste Ndayishimiye, dauphin désigné du président Pierre Nkurunziza, qui avait annoncé en juin 2018 ne pas se représenter après avoir fait adopter une nouvelle constitution qui pourtant le lui permettait.
Le nombre de décès causés par le VIH pourrait doubler en Afrique subsaharienne si l'accès des malades au traitement était perturbé par la pandémie de COVID-19, a prévenu ce lundi l'ONU. Une perturbation de 6 mois dans l'accès aux antirétroviraux pourrait entraîner plus de 500 000 morts supplémentaires, s'ajoutant aux 470 000 décès recensés en 2018 selon l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA. C'est du jamais vu depuis 2008 lorsque 950 000 personnes étaient mortes du SIDA dans la région. En 2018, 25,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique subsaharienne, dont 16,4 millions bénéficiaient d'un traitement antirétroviral. Au Mali, les députés ont élu ce matin Moussa Tembine du RPM au pouvoir comme président de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Il a été élu par 133 voix alors que son challenger au perchoir Moussa Mara a obtenu 8 voix. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Pour cette séance inaugurale, les élus de la nation ont choisi le Centre international des conférences de Bamako afin de respecter la distanciation, se protéger contre le COVID-19. Dès l'entame, il y a eu le contrôle des mandats. 134 députés étaient présents. Dans la salle, il y a eu 3 candidatures officielles pour le perchoir, dont 2 étaient de la majorité présidentielle. Une suspension des séances a été demandée afin que les députés de la majorité accordent leur violon. Ainsi, Mamadou Diarra-Souba se retire au profit de Moussa Tembiné, ce qui donne un duel entre deux Moussa, Tembiné et Mara. Le vote à bulletin secret a permis à Moussa Tembiné d'avoir 133 voix contre 8 pour Moussa Mara. Ainsi, le premier vice-président de la Chambre sortante, Moussa Tembiné, 46 ans, président de l'Union nationale des jeunes du RPM, le parti au pouvoir, a été élu ce 11 mai 2020 président de l'Assemblée nationale du Mali. Il succède ainsi à Issiaka Sidibedi Isaac, qui était aussi de la majorité présidentielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Une enquête a été ouverte au Togo après la mort mystérieuse d'un haut gradé de l'armée au lendemain de l'investiture du président Faure Gnassingbé. Le lieutenant-colonel Bitala Majulba, commandant du 1er bataillon d'intervention rapide, avait été retrouvé mort dans son bureau le 4 mai. Une balle a été extraite du corps de la victime lors de l'autopsie, a déclaré le procureur de la République. Le président malgache Ange Rajoel a rejeté ce lundi les critiques sur l'efficacité de la potion traditionnelle malgache qu'il présente comme un remède contre le coronavirus. Si ce n'était pas Madagascar et si c'était un pays européen qui avait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne le pense pas, a assuré M. Rajoel lors d'un entretien à 2 médias français. Madagascar a fourni à sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d'Artemisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnue contre le paludisme, en affirmant qu'il prévenait et soignait le COVID-19.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le COVID-19 a fait au moins 282 000 morts sur plus de 4 millions de cas sur la planète. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants. Faisons le point avec Nani Talani.
Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec plus de 79 000 décès. La France a commencé son déconfinement ce lundi. La plupart des commerces peuvent rouvrir en respectant des mesures de distanciation physique, mais pas les bars, restaurants, théâtres et cinémas. En Espagne, excepté Madrid et Barcelone, la moitié des habitants peuvent de nouveau s'installer sur les terrasses des bars et restaurants. Aux Pays-Bas, les écoles primaires et garderies rouvrent partiellement. En Belgique, la plupart des commerces ont rouvert. Le Royaume-Uni a prolongé le confinement au moins jusqu'au 1er juin. En Russie, le président Vladimir Poutine a ordonné la fin dès demain mardi de la période de chômage payé en vigueur depuis fin mars pour faciliter la mise en œuvre du confinement. En Chine, la province du Hubei, berceau de la pandémie, a signalé 5 nouveaux cas de contamination ce lundi. L'Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent africain, a passé la barre des 10 000 cas confirmés, dont 194 décès. Les Tchadiens qui ne respectent pas l'obligation de porter le masque dans les lieux publics peuvent aller en prison. Au Bénin, les écoles, à l'exception des maternelles et des universités, ont rouvert leurs portes aujourd'hui avec des consignes strictes de distanciation, d'hygiène et distribution de masques.
L'Iran n'exclut pas un retour en arrière en cas de non-respect des consignes sanitaires. Les autorités ont même rétabli les restrictions de déplacement dans la province de Khuzestan, dans le sud-ouest, où la situation est jugée particulièrement inquiétante par le gouvernement. Elles ont refermé les services administratifs, banques et commerces non essentiels dans 9 comtés de Khuzestan. Cela peut arriver pour toute autre province si nous ne faisons pas attention, a indiqué le ministre de la Santé, déclarant que des restrictions seraient réimposées dans d'autres endroits si nécessaire. Un navire de guerre iranien a été touché par un missile lors de manœuvres navales en mer d'Oman, une bavure qui a fait 19 morts. Le navire de soutien logistique a été touché après avoir déplacé une cible d'exercice vers sa destination sans créer suffisamment de distance entre lui et la cible, selon la version officielle. Fabriqué aux Pays-Bas, le navire de soutien logistique Koronak a été acheté par l'Iran avant la révolution islamique de 1979. pesant 447 tonnes et d'une longueur de 47 mètres, le navire est équipé de 4 missiles de croisière, d'après la télévision d'État. En Indonésie, un incendie a fait au moins 22 blessés ce lundi sur un pétrolier dans l'un des principaux ports d'Indonésie. Les pompiers et les secours ont transféré les 22 blessés vers l'hôpital et tenté d'accéder aux dizaines de personnes encore prisonnières du navire dans le port de Belawan, dans la région du Sumatra du Nord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
La RDC s'apprête à lancer un appel d'offres pour l'attribution de nouveaux blocs pétroliers et gaziers. Financial Afrique rapporte qu'un état des lieux a déjà permis d'identifier les concessions et les blocs libres ou attribués. Le ministère des Hydrocarbures veut maintenant procéder à la délimitation des blocs concernés pour réunir les données techniques. Il demande $525 000 pour cette opération et $725 000 pour l'organisation de l'appel d'offres. Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, plaide pour un moratoire de 2 ans de la dette africaine. Selon la Commission économique pour l'Afrique, le continent a besoin de $44 milliards pour contrer le coronavirus. L'institution estime qu'un confinement total d'un mois coûte au continent environ 2,5% de son PIB annuel, soit environ $66 milliards. À cela s'ajoute l'impact du coronavirus et la baisse des prix des matières premières. Pour terminer, le plus grand exportateur de brut, l'Arabie Saoudite, a décidé de couper 1 million de barils de pétrole supplémentaires par jour à partir du mois de juin pour soutenir les prix du brut qui se sont effondrés. L'Organisation des pays producteurs de pétrole et ses alliés ont convenu le mois dernier de réduire la production de 9,7 millions de barils par jour, tandis que d'autres producteurs se sont engagés à réduire leur production d'environ 3,7 millions de barils par jour.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. La saison de football doit reprendre le 21 mai au Burundi, plus d'un mois après la suspension de la dernière compétition de football en Afrique. Cette décision a été prise par les autorités pour permettre la tenue de rassemblements politiques dans les stades avant les élections générales prévues pour le 20 mai. La Fédération burundaise de football a également annoncé que les demi-finales et la finale de la Coupe nationale se dérouleront à partir du 13 juin. Certains pays africains comme la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, l'Angola, le Kenya ont définitivement arrêté leur saison 2019-2020. D'autres comme le Mali, le Maroc espèrent continuer dans les mois à venir. Au Maroc, le sélectionneur Vahid Halilhodžić verra son salaire réduit de moitié. Ainsi en a décidé la Fédération royale marocaine de football après une réunion extraordinaire consacrée aux conséquences de la suspension des championnats de football. Tous les entraîneurs des équipes nationales ont accepté des réductions de leur salaire allant de 20 à 50%. La fédération a aussi approuvé un plan d'aide aux arbitres dans un contexte où 95% d'entre eux n'ont plus de revenus. En Angleterre, les lignes directrices publiées par le gouvernement sur le déconfinement ouvre la porte à une reprise des compétitions sportives le 1er juin à huis clos, confortant la Première Ligue dans son projet de terminer sa saison. La phase 2 du confinement, qui ne débutera pas avant début juin, prévoit, selon le document, d'autoriser les événements culturels et sportifs à se dérouler à huis clos. Pour diffusion, télé, radio et Internet, la Première Ligue envisage un retour à l'entraînement dès la semaine prochaine en vue de disputer les 92 matchs restants pour finir la saison entre début juin et fin juillet à huis clos et dans un nombre limité de stades. En Espagne, les joueurs du Real Madrid ont repris l'entraînement aujourd'hui sous la direction du coach Zinedine Zidane, masqué après 2 mois de pause forcée. Les joueurs étaient au maximum 6 sur le même terrain. Ils ont été divisés en 2 groupes et sur plusieurs terrains et ont effectué leurs premiers exercices individuels avec et sans ballon. À cette occasion, l'international belge Eden Hazard a retrouvé les terrains d'entraînement 3 mois après une blessure à la cheville droite qui a nécessité une intervention chirurgicale. Pendant le confinement, aucun joueur madrilène n'a souffert de symptômes du coronavirus, mais Zidane est privé du jeune attaquant serbe Luka Jovic, victime d'une fracture au talon droit vendredi.
Merci Yacouba.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Avec près de 2000 cas positifs et 19 morts, le Sénégal subit de plus en plus l'impact du Covid-19. Les mosquées sont fermées, les marchés n'ouvrent que la moitié de la semaine. Le couvre-feu commence au moment de la rupture du jeûne. Les Sénégalais vivent un ramadan inédit à cause du Covid-19 et ils sont obligés d'adapter leurs habitudes. Le président Macky Sall s'adresse à nouveau demain aux Sénégalais. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Pas de prières collectives dans les mosquées, pas de rassemblements religieux. Les traditionnelles conférences sur la vie et l'œuvre du prophète ne sont pas non plus au rendez-vous de ce mois de Ramadan 2020. Une première pour les musulmans comme Serigne Faye, qui demande à l'État d'assouplir les mesures afin de permettre aux fidèles de retrouver les lieux de culte.
C'est difficile parce que nous avons vu que l'État a trouvé des mesures de précaution concernant les marchés, les lieux de travail. Pourquoi ne pas utiliser ces mêmes moyens de précaution pour ouvrir les mosquées et laisser aux fidèles de pratiquer les prières comme les prières de vendredi à Djuma? C'est nous ce que nous voulons en tant que jeunes musulmans. Et cela nous manque vraiment.
Autre chose qui manque aux musulmans sénégalais, ce sont les moments de retrouvailles et de détente nocturne qui d'habitude prennent le relais après les longues journées de privation imposées par le jeûne. Pour Papa Sow, c'est difficile de s'adapter, même si le confinement a permis aux familles de revenir à une certaine orthodoxie.
Mais aussi, il faut analyser la chose d'un côté aussi positif, vu qu'on avait perdu une notion qui faisait partie de notre culture, qui est la vie de famille. Je vois qu'avec ce confinement et la pandémie, on commence à récupérer ça. Même si les réseaux sociaux nous écartent un petit peu et créent un petit peu la distance entre les familles, mais on voit que ça se resserre peu à peu avec le confinement.
Les ménagères également sont impactées par les restrictions qui touchent les marchés, qui ne sont ouverts que les lundis, mercredis et vendredis. Cette décision, qui devait permettre de maîtriser l'affluence dans les lieux de commerce, a produit l'effet contraire. Ce qui oblige certaines dames comme Sohna à changer leurs habitudes durant le mois de Ramadan.
Effectivement, c'est pas évident et c'est très difficile aussi d'y aller, car on a besoin tout simplement de se protéger déjà contre le virus et la maladie. Personnellement, j'ai préféré faire mes achats au niveau du supermarché et souvent je passe aussi des commandes et je me fais livrer. Ça dépend aussi des familles et il faut prendre en charge aussi toutes les personnes et toutes les familles. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne peut pas faire des achats deux fois ou bien trois fois par semaine.
Beaucoup de Sénégalais se plaignent de la situation imposée par le Covid-19, notamment des restrictions liées à la pratique religieuse. Ce week-end, des tensions ont d'ailleurs été notées à Kaolack, où un imam a reçu une convocation de la police après avoir dirigé la prière collective du vendredi. C'est dans ce contexte tendu qu'une allocution du président Macky Sall est attendue ce lundi soir à 20h. Beaucoup d'observateurs prédisent déjà un assouplissement des mesures au moment où le nombre de cas positifs et de décès ne cesse de grimper. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, les établissements scolaires et universitaires sont fermés depuis le 20 mars pour empêcher la propagation du Covid-19. Un enseignement radio-télévisé a été initié pour aider les élèves des classes de 3e et terminale à bien préparer les examens. Mais qu'en est-il des élèves des classes intermédiaires et des étudiants des universités et écoles professionnelles? André Kolmajingar, correspondant de VOA Afrique, a fait un tour dans quelques familles de N'Djamena. Voici son reportage.
Lecture, V, Re, Ara, Re, Oro, 8, moins 17. Il reste combien?
8 au thé des 17.
8 au thé des 17.
Il reste combien?
9. J'écris 9. Je retiens 1.
À cause du coronavirus, les enfants sont en congé forcé. Leur éducation de base incombe entièrement aux parents. Mais certains se font beaucoup de soucis pour l'avenir de leurs enfants, car pour eux, l'école est le chemin vers la réussite.
C'est vraiment de l'inquiétude et à la limite même de la peur, parce qu'on ne sait pas quand est-ce les écoles vont reprendre et quel sera le sort de ces enfants. Sinon, notre souhait, effectivement, c'est de voir nos enfants aller à l'école et puis progresser.
Pour autant, Jacques Nabay Neko, parent d'élèves habitant le 7e arrondissement de N'Djamena, ne se décourage pas. Comme lui, d'autres responsables de famille s'organisent pour apprendre aux enfants les règles de calcul et la lecture pour rehausser le niveau, comme en témoignent les enfants.
Je m'appelle Mbaye Odijuste. Je fais ça. On fait les exercices, la lecture, les calculs mentaux, la dictée et la division. Que les écoles s'ouvrent pour que je reparte à l'école pour étudier, pour devenir médecin et soigner la population.
Je m'appelle Martine Grandefaya. Je suis en classe de CD. Chaque matin, notre maman nous apprend à lire et moi-même, je prends mon livre pour lire. Je veux devenir ministre de ce pays.
Le gouvernement a conçu un programme spécial en français et quelques matières scientifiques qui sont dispensées sur les chaînes de radio et télévision nationales. L'enseignement radio-télévisé a aussi ses lacunes pour les élèves qui doivent passer les examens de fin d'année.
On suit les cours dispensés à la radio, tout comme à la télé, mais cela ne nous permet pas la compréhension, car ce qu'on ne comprend pas, on n'a pas aussi l'occasion de poser les questions pour comprendre le cours.
Moi, les autres, on n'a pas la télé chez nous. Donc, des fois, d'abord, je suis certains cours à la radio.
Nous, les élèves, le fait de faire cours avec les professeurs, la même, là, des fois, d'abord, on comprend.
Pour Ndongar Dongar, inspecteur de l'enseignement secondaire à la retraite, les conditions ne sont pas réunies pour parler d'enseignement à distance.
On fait un enseignement au hasard parce qu'on ne sait pas quel est l'élève qui reçoit. Par exemple, si on avait mis des poules de professeurs au niveau des établissements ou au niveau des inspections pédagogiques pour que les élèves qui suivent les cours à distance essaient donc de réagir par les exercices traités, c'est ça qui permettrait de dire que le cours a porté. Mais on n'en a rien. Si cette pandémie persiste, il va de soi qu'on ira une année blanche.
Les mêmes craintes animent les étudiants de différentes universités de N'Djamena. Massouda Samuel Bourmassou, étudiant en deuxième année à la faculté des sciences juridiques et politiques.
Nous sommes déjà en mai, bientôt juin, la saison pluvieuse va venir, donc je crois que l'année blanche n'est pas longue. Si le gouvernement n'est pas capable de faire les cours en ligne, je crois que le Tchad a vu des reculs dans les études universitaires. Et avec cette pandémie encore, le Tchad va reculer de 10 pas en arrière.
En effet, les cours en ligne pourraient être une solution à condition que chaque élève ait accès à un ordinateur ou un téléphone Android, ce qui est un luxe pour beaucoup de jeunes Tchadiens. Et les rares jeunes assez nantis pour avoir ces outils informatiques savent aussi que la connexion Internet est souvent trop capricieuse en ville et reste un rêve lointain dans beaucoup de provinces de ce pays. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, les autorités ont décidé d'autoriser la réouverture des débits de boissons au-delà de 18 heures, levant cette restriction qui avait été prise le 17 mars avec d'autres pour limiter la propagation du COVID-19. Cette mesure d'assouplissement concernant les débits de boissons suscite des incompréhensions au moment où le pays a dépassé la barre des 2000 cas confirmés. Mais pour les entreprises brassicoles, c'est un soulagement. Mamadou Mfa fait le point.
Le 30 avril dernier, le premier ministre camerounais a annoncé une série de mesures d'assouplissement en vue de soutenir certains secteurs en difficulté. Parmi celles-ci, l'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs, avec obligation pour les clients et usagers, je cite, de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation sociale. Une décision qui suscite néanmoins des incompréhensions, alors que les écoles restent fermées et le pays a franchi la barre des 2000 cas confirmés de COVID-19. Anne Fegand Noah, porte-parole du PCRN, un parti politique d'opposition.
C'est une manière, une approche un peu irresponsable lorsqu'on sait que le gouvernement devrait en priorité protéger les populations. Lorsqu'on va dans un bar, on ne boit pas avec un masque.
Pour les professionnels de santé, c'est une décision à risque, susceptible de rallonger la chaîne de transmission du virus. C'est ce que pense le docteur Roger Etoy, médecin de santé publique.
Il y aura forcément des conséquences en nombre de patients contaminés, en termes de mortalité et également en termes de surcharge des hôpitaux. Nous nous arrêtons un peu à la fatalité pour voir ce que ça va donner.
Mais les exploitants de débits de boissons assurent qu'ils prennent des mesures pour limiter la transmission du virus. C'est ce que nous a expliqué Valérie Tendier, coordonnateur du CINEDBOC, le syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun.
À l'entrée de chaque établissement, nous avons installé des points d'eau avec du savon. À l'intérieur, nous avons mis des gels hydroalcooliques. Nous avons instauré le port des masques obligatoires à nos personnels. Nous avons exigé également le port des gants. Nous avons, pour la distanciation, demandé à chacun de nos membres de limiter le taux de places assises. Nous avons aussi demandé aux promoteurs d'établissements de loisirs d'utiliser à toutes les entrées des thermoflash.
Pour de nombreux observateurs, le gouvernement a plus que jamais besoin des taxes générées par les débits de boissons et le commerce. Valérie Ntendi.
Les impôts, c'est 2200 milliards de budget par an. Sur ces 2200 milliards, la filière brassicole représente 600 milliards d'impôts. Si on fonctionne à 5% sur les attentes mensuelles de 50 milliards, nous ne pourrons produire que 2,5 milliards.
La consommation de la bière est une véritable religion pour de nombreux Camerounais. Dans son rapport d'activité, la Société anonyme des brasseries du Cameroun affirme avoir vendu 4 655 000 hectolitres de bière en 2018 et donc une importante rentrée fiscale pour le gouvernement de Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, le COVID-19 contraint le centre d'appel e-convivial qui est spécialisé en santé sexuelle et de reproduction à dédier une partie de son application à l'accompagnement de la population. En ces temps de crise sanitaire, e-convivial propose des autotests sur le COVID-19 et met à la disposition du public des informations pour limiter la propagation du virus. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Depuis l'avènement de la pandémie du nouveau coronavirus au Togo, le centre d'écoute à distance e-convivial n'est plus exclusivement dédié aux questions de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Ce centre, qui dispose également d'une application mobile, propose des services en ligne pour endiguer le COVID-19. Rodrigue Akoli, responsable du centre e-convivial.
Avec l'arrivée et de la pandémie du coronavirus, nous avons procédé à une mise à jour de notre application en y intégrant des services liés aux mesures préventives et à l'assistance en ligne. Nous avons également un autotest qui permet à chaque utilisateur de pouvoir s'auto-évaluer. Et enfin, nous avons la cartographie des cas de contamination et sur la carte du Togo, vous avez des points au niveau de chaque région qui définit là où la contamination est présentement. Ça permet de renforcer les mesures en matière de circulation.
L'un des défis en cette période de crise sanitaire est la multiplication des fake news. Le centre e-convivial, par le biais des CUS, apporte de la bonne et crédible information à ses utilisateurs. Pascaline Edo se charge des CUS sur la plateforme.
Ces CUS nous permettent de sensibiliser, d'informer nos utilisateurs, puisque les gens sont toujours focalisés sur les fake news. Et donc, l'application se charge quand même, quand tu choisis même une mauvaise réponse, elle te fournit quand même la bonne après pour que ça soit bien gravé dans la mémoire que c'est la vraie information et que tu dois t'en servir. Et donc, on contribue de cette manière à la lutte contre le coronavirus.
Sur son application, e-convivial, qui revendique près de 20 000 utilisateurs, met à leur disposition des autotests. Docteur Charles Batasanga, médecin téléconseil à e-convivial.
Les utilisateurs doivent répondre à des questionnaires, soit par oui ou par non, s'ils présentent les signes de la maladie. En dehors des signes, est-ce que l'utilisateur a été en contact avec un cas positif? Et c'est ces différentes questions auxquels les utilisateurs doivent répondre. Alors, ça permet de voir si le patient présente un risque élevé, moyen ou faible de faire la maladie. Si nous pensons que l'utilisateur présente des signes de la nouvelle maladie, alors nous demandons aux utilisateurs d'appeler le 111.
Rappelons que le 111 est le numéro vert mis à disposition par le gouvernement togolais pour toute information ou requête relative au COVID-19. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Georges Léonard Sagnon, Michel Joseph et Joselle Morissa. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.